Itinéraire de femme. Anne André. Une émission proposée par Radio Shalom Bourgogne.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Itinéraire de femme. Nous allons parler aujourd'hui de Regina Jonas, qui est née en 1902 et décédée assassinée en 1944. Regina Jonas est reconnue comme la première femme à avoir été ordonnée rabbin dans le monde contemporain. Elle est née à Berlin, elle a étudié au Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, où elle écrit une thèse démontrant que la loi juive, la Halacha, permettrait à une femme d'exercer la fonction de rabbin. Malgré un refus initial du corps professoral en raison de son genre, elle était ordonnée en 1935 par le rabbin libéral Max Dinemann. Regina Jonas a travaillé essentiellement comme aumônier dans différentes institutions juives et elle a continué sa mission pastorale pendant la persécution nazie, nous allons en parler, notamment à Terenstadt, où elle apportait aide et soutien spirituel aux déportés. Elle fut elle-même déportée à Auschwitz, où elle fut assassinée en 1944. Regina Jonas a été conduite à travailler clandestinement pendant la Shoah en raison de plusieurs circonstances liées à la persécution nazie, des Juifs, en Allemagne en particulier. Après avoir obtenu son ordination rabbinique en 1935, reconnaissance rarissime, puisque ce serait la première femme reconnue rabbin dans le monde contemporain, elle n'a pas trouvé de congrégation officielle pour prêter à l'accueillir comme rabbin, faute d'acceptation générale de son statut dans les communautés juives, notamment à cause des résistances dans l'ensemble des milieux, en tout cas de l'époque. Avec l'intensification des persécutions, de nombreux rabbins allemands émigrent, laissant les communautés sans officiant. Cela va permettre à Regina Jonas de trouver du travail en tant qu'aumônière et de prêcher par exemple dans la synagogue de la Jüdische Gemeinde à Berlin. Mais son exercice officiel reste très limité, souvent informel, notamment parce que très vite, les Juifs sont rapidement confinés dans des ghettos, soumis à des décrets de travail forcé sous contrôle nazi strict. Elle-même, Regina Jonas, a été enrôlée au travail forcé industriel, mais elle a continué de manière clandestine son ministère, offrant son soutien spirituel, visite aux malades et sermons dans des conditions très dures, y compris dans des camps de concentration comme Theresienstadt, où elle était déportée en 1942. Cette activité clandestine était nécessaire, car l'expression religieuse juive officielle évidemment était réprimée, et les Juifs n'avaient plus aucune liberté d'organisation. Alors, comment Regina Jonas a accompli cette mission dans l'enfermement nazi, dans des extrémités extrêmement difficile à vivre. Elle avait refusé de fuir l'Allemagne, estimant que sa place et sa responsabilité étaient d'apporter son soutien spirituel et moral à ses co-religionnaires, plongés dans l'épreuve. Pendant la persécution nazie, elle n'a jamais eu de communauté officielle dirigée, mais elle a exercé son ministère par l'enseignement, la prédication, le soin apporté aux malades et aux personnes âgées dans les hôpitaux juifs, ainsi qu'aux prisonnières dans les établissements dédiés. Regina Jonas a prodigué son soutien à ceux dont la situation devenait désespérée, visitant beaucoup les personnes défavorisées et prêchant lors d'événements communautaires, et donc travaillant, nous l'avons dit, comme aumônière dans plusieurs institutions. Elle est déportée en novembre 1942 dans le camp de Terenstadt, où elle va s'engager auprès des nouveaux arrivants, les aidant à surmonter le choc du déracinement, du stress et de la terreur. Elle va les renseigner sur les conditions réelles de vie dans ce camp, et elle assurait ensuite autant que possible une présence pour les accompagner. Il faut rappeler que le camp de Terenstadt est un camp ghetto et à la fois camp de concentration, qui est situé vers Prague. C'est à la fois un camp de transit vers les camps d'extermination, mais aussi un camp de regroupement de juifs, notamment intellectuels et certaines personnalités, qui servira de camp modèle pour les nazis dans la propagande nazie. Et malgré ça, malgré ce camp modèle, ce prétendu camp modèle, les conditions de vie étaient horribles. Un tiers des détenus qui n'ont pas été emmenés vers les camps d'extermination sont morts de ces conditions de vie horribles. surpopulation, malnutrition, typhus, dysenterie, hygiène très médiocre, etc. Il y aura par ailleurs une vie intellectuelle et culturelle en grande partie clandestine, extraordinaire, pour laquelle il y a des traces importantes, mais ça pourrait faire l'objet d'une émission évidemment spécifique. Au camp de Terenstadt, elle a en particulier travaillé dans le service d'intervention psychologique qui était créé par Viktor Frankl, le célèbre psychiatre, où elle avait comme fonction de prévenir les suicides et d'apporter une assistance psychosociale à ceux qui se trouvaient dans une situation d'extrême détresse. C'est quelqu'un d'extrêmement important. Ce que l'on sait dans ce travail, c'est que cette collaboration contextuelle entre Regina Jonas et Viktor Frankl, dans ce camp très particulier vers Prague, est maintenant effectivement vérifiée comme ayant existé vraiment, puisqu'il y a évidemment toujours des questions sur les sources en histoire. Le site de Yad Vashem, que l'autorité reconnue pour l'histoire de la Shoah, indique que Jonas et Frankl étaient bien collègues dans le ghetto de Terenstadt. Sous sa direction, elle a accueilli et soutenu, comme nous l'avons dit, les nouveaux arrivants. Elle a porté assistance et réconfort. Elle a aussi prononcé des conférences et donné des sermons dans la communauté déportée. Parle d'elle savamment l'historienne Elisa Klapp-Eck, qui est sa principale biographe, qui documente cette relation particulière entre le psychiatre et le rabbin, dans un ouvrage qui s'appelle « Fräulein Rabbiner Jonas, The Story of the First Woman Rabbi », qui est paru en 2004. Et Klapp-Eck mentionne bien le docteur Frantel comme un collègue qui a supervisé le service d'aide psychologique où Regina Jonas a travaillé, confirmant leur collaboration indirecte dans le soutien des déportés. C'est un sujet que Frankl, qui survivra, dont il parlera savamment dans des ouvrages très importants pour les soins psychiatriques et la réflexion sur la condition humaine. Alors, la vie de Regina Jonas est assez exceptionnelle, assez extraordinaire, notamment aussi parce qu'elle a connu une situation particulière du fait de sa volonté puissante, indéracinée, de devenir rabbin. Et malgré ses pressions sociales et religieuses, elle a pu arriver au bout de sa volonté et faire un travail de type rabbinique dont nous avons parlé, en particulier dans ce camp. Elle a connu des pressions religieuses qu'on peut qualifier de conservatrices, même si c'est une notion floue. En tout cas, à l'époque, dans les communautés, on ne souhaitait pas qu'une femme puisse être rabbin. Son professeur d'études talmudiques, avec qui elle a beaucoup travaillé, qui était responsable par ailleurs des ordinations, le rabbin Enoch Albeck, n'a pas voulu l'ordonner, car il ne voulait pas donner la Sémira à une femme. Même le judaïsme réformé libéral, qui accordait plus de place aux femmes, ne souhaitait pas qu'une femme puisse devenir rabbin. Le rabbin Léo Beck, qui est le chef spirituel à l'époque de la communauté juive allemande, qui est le mentor de cette communauté, a encouragé les études et le travail de Regina Jonas, mais il n'a pas voulu l'ordonner lui-même. Aussi parce que le rabbin Léo Beck, je pense qu'il souhaitait, enfin c'est ce que disent les spécialistes, qu'il souhaitait ne pas fragiliser l'unité entre les différentes branches du judaïsme en Allemagne à l'époque. En tout cas, c'était pas accepté, pas courant, qu'une femme puisse occuper une telle fonction religieuse. C'était la seule femme de son institut à vouloir devenir rabbin. Volonté rare, et nous l'avons dit, elle est allée jusqu'au bout. Ça n'a pas été simple. Elle était isolée professionnellement. Elle n'a pas trouvé de congrégation pour être un rabbin officiel. Mais nous avons dit en quoi et comment elle a pu exercer quelque part son métier de rabbin, avec excellence en tout cas, en s'occupant d'une manière extraordinaire des gens, notamment, qui étaient déportés. On peut dire en conclusion que jusqu'à son assassinat, Regina Jonas, première rabbin femme du monde contemporain, a incarné une présence, une véritable mission de consolation, c'est un mot important, et d'accompagnement inlassable auprès des plus vulnérables, notamment pour ceux qui se trouvaient dans la situation de déportation. Et Elle a transformé à sa façon, modestement mais avec une puissance inouïe, des lieux d'extrême adversité en un espace où il y avait de l'humain et de la foi qui survivaient, malgré tout, dans ce monde de la mort. Nous avons parlé de Regina Jonas, qui est née en 1902 et décédée assassinée dans un camp d'extermination en 1944 en Allemagne, qui fut, en dehors de son parcours extraordinaire au service des autres, et en particulier des communautés juives dans la situation du système nazi allemand, elle était, chose très originale et particulière, la première femme à avoir été donnée rabbin dans le monde contemporain. Donc, nous étions sur Shalom Bourgogne dans votre émission Itinéraire de femmes. À très bientôt.
Itinéraire de femmes. Anne André. Une émission proposée par Radio Shalom Bourgogne.